Voilà. Donc, merci Jean-Eudes d'avoir accepté l'invitation donc de la société, voilà, excuse-moi, du club d'astronomie de Saint-Benoît. Parce qu'en fait, ce soir, c'est un cadre un petit peu particulier. Bien sûr, la conférence a lieu à Mendès France, mais c'est dans l'esprit en fait de partage et d'association entre les différents, on va dire, acteurs de l'astronomie, donc en Vienne, mais en Poitou-Charentes au sens large, voilà, de s'entraider, de travailler en commun. Et eh bien, quand on peut faire des choses ensemble, eh bien, pour ma part, c'est tout à fait volontiers. Après, bien sûr, il y a toujours des problèmes de délai. Voilà, mais hormis ça, voilà, à l'échelle de quelques mois, il n'y a aucun souci. Et donc, c'est avec grand plaisir que bah, je vous accueille ici ce soir, que j'accueille aussi donc Jean-Eudes Darlot, qui va nous présenter donc des découvertes des satellites, des planètes géantes ou des planètes. Satellites en fait qui sont connus depuis récemment à l'échelle de l'astronomie. Les premiers eh bien, datent d'il y a 400 ans avec les satellites de Jupiter. Et depuis, eh bien, on n'a pas cessé d'en découvrir avec beaucoup de surprises depuis quelques dizaines d'années. Et ils nous réservent encore des surprises. Donc ça va être cette aventure-là qui va être racontée ce soir par Jean-Eudes. Voilà, pendant à peu près 1 heure. À la suite de ça, plus.
Beaucoup de satellites.
Il y a beaucoup de satellites, d'accord. Bon. Donc, environ 1 heure, qui pourra être suivie donc, de compléments de questions, en essayant d'être simplement resté raisonnable sur l'horaire, parce que donc, ce soir, il y a des personnels en fait, qui n'étaient pas forcément prévus de travailler, donc on essaiera de voilà, limiter la soirée vers 22 h, et éventuellement finir la conversation, pourquoi pas dehors, comme il ne pleut pas ce soir. Voilà, donc, je te laisse la parole, Jean-Eudes, et à tout à l'heure.
Merci, donc bonsoir à tous. Donc je suis Jean-Eudes Darlot et je suis astronome à l'Observatoire de Paris. Donc un astronome, ça observe le ciel et aujourd'hui je voudrais vous parler de l'exploration des satellites naturels des planètes, mais exploration depuis leur découverte. C'est-à-dire que je vais vous expliquer ce qu'on connaît aujourd'hui, mais surtout je vais vous expliquer toute la démarche que les astronomes ont suivie depuis la première fois qu'ils se sont aperçus de cette existence de ces satellites naturels des planètes. Alors, on va partir d'assez loin, effectivement. D'abord, on va se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un satellite naturel? Parce que tout le monde connaît le Soleil, les planètes. Eh bien, les satellites, en quoi ils se distinguent des planètes? Parce que c'est tout simplement, ils suivent les planètes dans leur course. On baisse un peu la lumière. Voilà, c'est bien. Merci. Donc les satellites, d'ailleurs le mot satellite vient du grec et veut dire garde. C'était les satellites, c'était des gardes dans la Grèce antique. Et donc c'est les gardes, des gardes de toutes ces planètes, des petites choses qui tournent autour des planètes et qui les accompagnent dans leur course autour du Soleil. Alors combien il y en a des satellites? J'ai mis deux colonnes parce que il y a ce qu'on appelle les satellites principaux, ceux qui sont gros, ceux qu'on connaît bien, ceux qu'on connaît depuis un certain temps, et puis d'autres qu'on a observés, plus ou moins, je dirais, et qui sont souvent des petites choses, des cailloux. Après tout, n'importe quel caillou qui tourne autour d'une planète peut aussi s'appeler satellite. Alors vous voyez, si on prend les planètes dans l'ordre, on a 0, 1, 2, 4, 8. Ce qui est assez amusant de cette succession comme ça. Et puis, le nombre de satellites observés, il est différent. Tout simplement parce que, oui, on a observé un satellite autour de Vénus. Je vais vous en dire quelques mots du satellite de Vénus. La Terre a en fait plus qu'un satellite. J'ai mis deux, mais il peut y en avoir peut-être trois ou quatre. Ce sont des petits corps, des astéroïdes qui, dans leur course autour du Soleil, sont un petit peu captés par la Terre et pendant un certain temps vont tourner autour de la Terre. Actuellement, on en connaît un. Peut-être un deuxième, c'est pas très sûr. Mars, deux satellites, là il n'y a aucun doute, hein, il n'y en a que deux. Jupiter, il y a les quatre satellites principaux qu'on connaît depuis 400 ans, et puis d'autres petits cailloux, et on arrive aujourd'hui à 63. Même chose pour Saturne, Sauf que Saturne, au début, on a vu qu'il n'y avait qu'un gros satellite, on en a découvert 7 autres, et plus récemment, maintenant, on en est à 60. Alors pareil, Uranus, Neptune, il y a les satellites principaux qui sont gros. En fait, ces satellites principaux, ils sont assez gros, puisqu'ils sont gros comme des planètes. Les satellites de Jupiter, ils sont aussi gros que la planète Mars. Donc vous voyez, on a des planètes qui sont pas très grosses, Jupiter, Vénus, la Terre, Mars, des planètes qui sont très grosses, et les satellites des grosses planètes ont la taille des planètes qui, elles, sont plus petites. Pas que la Terre, mais Mars, par exemple. Voilà, donc tout ça pour vous dire que le nombre, il est pas encore définitif, parce qu'on en découvre tous les jours et c'est pas fini. Bon, alors ça, je laisse. Vénus, je voulais juste vous dire quelques mots, c'est qu'on a vu pendant plusieurs siècles un satellite autour de Vénus. Ça était des fois un reflet, d'autres fois une étoile qui était derrière Vénus, tout simplement, parce que Vénus se déplace sur la voûte céleste, et de temps en temps, elle croise une étoile. Ben, si l'étoile se trouve à l'endroit où l'astronome s'attend à voir un satellite, il va dire « j'ai vu le satellite ». Donc pendant plusieurs siècles, on a observé un satellite autour de Vénus, parce que on tenait absolument à voir quelque chose. Et il a fallu attendre des télescopes plus grands pour montrer qu'il n'y avait pas de satellite autour de Vénus. Donc les satellites, on les a devinés, en fait. On savait que la Terre avait un satellite. Galilée nous a montré que Jupiter avait 4 satellites. Et ben, il y a 400 ans, on s'est dit « Mars doit avoir 2 satellites et Saturne doit en avoir 8. Après tout, pour que ça fasse un 2, 4, 8. » C'était naïf, mais c'était vrai. Alors les satellites de Mars, je ne vais pas vous parler de la Lune parce que vous la connaissez aussi bien que moi, il suffit de regarder dans le ciel, donc je vous fais grâce de la Lune. Mais les satellites de Mars, c'est des toutes petites choses qui tournent, donc ça c'est une photo successive, et on a pris 3 photos là, et c'est donc les positions des satellites de Mars autour de la planète Mars. C'est une image qui a été prise au pic du midi. Alors ces 2 petits satellites... Quand est-ce qu'ils ont été découverts? Ah, les voyages de Gulliver. Vous vous demandez pourquoi tout d'un coup je vous parle des voyages de Gulliver. C'est un livre de Jonathan Swift qui raconte l'histoire de quelqu'un qui se retrouve chez des gens qui sont tout petits, les Lilliputiens. Alors pourquoi je vous parle de ça? Ce livre, il a été écrit en 1700. Est-ce que j'ai mis la date là? Oui, en 1727, il a été écrit, ce livre. On connaissait pas du tout les satellites de Mars. Eh bien, dans ce livre, il est écrit que les astronomes lilliputiens, ces petits bonshommes, eh bien, ils observaient 2 satellites autour de Mars, dont les périodes de révolution étaient de 10h et 21h30. C'est dans ce livre de 1727. Et en 1877, à l'aide de ce télescope qui est à l'observatoire de Washington aux États-Unis, vous voyez la taille du personnage, donc vous voyez que c'est quand même un très grand instrument. Grâce à ce télescope, il y a un astronome qui découvre 2 petits satellites autour de Mars, dont les périodes sont de 7h39 et 30h18. C'est pas exactement la même chose, mais avouez quand même que c'est proche. Donc ça, c'est quelque chose de très très étonnant de voir que dans un livre de science-fiction de 1727, eh bien, on avait imaginé, alors le nombre de 2 satellites, ça, c'était la devinette, 1, 2, 4, 8, mais le fait que les périodes correspondent assez à celle-là, c'est assez étonnant. Donc c'est une anecdote que je voulais vous raconter au sujet de la découverte des satellites de Mars. Donc c'est seulement en 1877 qu'on les découvre, avec cette lunette qui est importante. Alors maintenant, on a des photos, évidemment, de très proches de ces satellites, puisqu'on a envoyé des sondes spatiales qui ont pris des photos. Donc vous voyez, c'est des cailloux avec des bosses, parce que ces cailloux, ils n'arrêtent pas de se faire bombarder par d'autres cailloux. Donc voilà, il y a même un gros trou, parce qu'il y a eu un choc assez puissant sur ce satellite. Donc voilà, vous avez une photo. Alors ces rayures, c'est tout simplement des petits cailloux qui rasent comme ça, puis qui balayent la surface avant de repartir. Ou bien alors ils rentrent dans la surface et puis ça fait plein de petits trous comme ça. Donc vous voyez une surface qui ressemble à... Ça ressemble à un astéroïde en fait. C'est un satellite de Mars, mais c'est jamais qu'un astéroïde. Et là, vous avez Deimos, donc il y a deux lunes, Phobos et Deimos, dont vous avez ici les photos. Alors maintenant, on va passer à Jupiter. Alors Jupiter, lui, il a beaucoup de monde. Tout d'abord, on va parler de petits satellites. comme les satellites de Mars, qui tournent autour de Jupiter et qui sont très très proches. En fait, Jupiter a un anneau qu'on ne voit pas parce qu'il est très très faible, mais cet anneau, ben, il fabrique sans doute des petits satellites. Alors, il y en a plusieurs, il y a Thébé, Amalthée, donc vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Là, vous avez 100 kilomètres, et vous avez, alors il y en a que c'est vraiment des cailloux, puis d'autres qui sont un petit peu plus gros. Donc tout ça, ça tourne très proche de Jupiter, ça vient probablement de l'anneau qui est un reste de quelque chose. Voilà, donc ça c'est, on ne connaît ces satellites que récemment, depuis que les sondes spatiales nous les ont montrés. Alors si on continue, on a d'autres satellites autour de Jupiter, les satellites qu'on appelle galiléens. Alors ces quatre satellites dont j'ai mis les images, donc vous voyez, ça c'est la taille de Mars. Ce sont vraiment des petites planètes, et eux là, on les connaît quand même depuis très longtemps, puisque c'est Galilée lui-même qui les a observés. Alors j'ai voulu vous montrer ici Jupiter avec son satellite Io, la Terre avec la Lune, et je respecte les échelles de la taille de Jupiter, de la Terre et des satellites, et des distances. Donc vous pouvez remarquer deux choses, c'est que la Lune est à la même distance de la Terre que Io de Jupiter. Mais la Lune, elle met un mois pour tourner autour de la Terre, alors que Io met un jour et demi. Pourquoi ? Parce que Jupiter a une masse énorme. Donc pour rester en orbite autour de Jupiter, Io va tourner très vite. Et Io est à peu près la taille de la Lune, c'est pour ça que la Terre et la Lune, c'est plus une planète double qu'une planète avec un satellite. Vous voyez, là, on sent qu'entre la planète et le satellite, il n'y a pas de commune mesure. Ça, c'est un gros truc avec une atmosphère énorme. Et puis là-bas, c'est une petite Terre, alors que la Lune et la Terre se ressemblent beaucoup. Bon, la Lune est plus petite, il n'y a pas d'atmosphère, mais c'est quand même des corps qui se ressemblent. C'est une des planètes jumelles, la Terre et la Lune. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les satellites lointains. C'est très loin. Donc, vous voyez ici, il y a Jupiter. Et ce qu'on appelle ici Callisto Orbite, c'est le satellite galiléen le plus éloigné. Donc, vous voyez, ce que je viens de vous montrer, c'est là. Et très, très loin, là, on a plein de satellites qui sont comme les satellites de Mars ou comme les satellites intérieurs de Jupiter, des cailloux, des astéroïdes. Alors, ce qui est amusant, c'est que, donc, vous voyez, ici, vous avez Jupiter et les satellites galiléens. C'est que ces satellites sont répartis en deux groupes qui tournent sur des familles d'orbites très différentes, mais ils sont tous pareils. Donc là, vous avez un groupe qui tourne à 10 millions de kilomètres de Jupiter dans un sens, et là, vous avez un groupe qui tourne à 20 millions de kilomètres de Jupiter dans l'autre sens. Et vous comprenez que pour les astronomes, c'est une question. Comment un tel système a-t-il pu se former ? Et donc, ça nous donne des idées sur la formation du système solaire. Puisque, ben, on va essayer de comprendre, on a le point d'arrivée et on va essayer de refaire tout le scénario qui nous permet d'arriver à cette situation. Donc, dans le cas de ces satellites, le travail de l'astronome, c'est ça, c'est d'essayer de comprendre comment on arrive à une situation comme ça. Alors, pourquoi on va encore explorer tout ça? Donc là, vous avez les dimensions comparées. Donc vous voyez que Vénus et la Terre sont assez grosses par rapport aux autres, mais Mercure, Mars, Titan, Callisto, Ganymède, donc tout ça, vous avez les satellites de Jupiter et de Saturne, ceux qu'on appelle comme des petites planètes, quoi, des satellites telluriques, comme les planètes comme Mercure ou Mars. Alors pourquoi étudier tout ça? Donc ça, c'est de l'exploration. Je vous l'ai bien dit au début, on fait de l'exploration. Comme l'explorateur explorait les territoires inconnus sur Terre, l'astronome, lui, il explore le système solaire. Alors, aujourd'hui, il y va, il envoie des sondes spatiales, mais à l'époque, autrefois, on n'avait que nos yeux et un télescope pour essayer de voir tout ça. Mais en plus de ça, de l'exploration, tout ça, ça nous a servi à quelque chose. Alors, on remonte 400 ans en arrière. Et on imagine Galilée qui vient de fabriquer sa lunette, hein, c'est un tout petit truc comme ça, et puis qui se dit tiens, je vais regarder le ciel, parce que s'il avait fabriqué sa lunette, c'était pour faire une lunette d'approche a priori, c'était pas pour regarder le ciel. Et puis il a eu quand même cette idée de se dire tiens, je vais regarder le ciel. Personne n'avait regardé le ciel parce que quel intérêt, c'est des petits points dans le ciel, si on regarde avec une lunette, on va voir des petits points. Et ben Galilée, il est surpris parce que les petits points se transforment en autre chose. Jupiter, qui était un point lumineux dans le ciel, se transforme en un globe lumineux avec des petits points à côté. Alors, bon, Galilée, il dit ça, c'est Jupiter. Puis il dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi il y a quatre petits? Ça doit être des étoiles qui sont à côté de Jupiter, comme ça. Bon. Mais, les étoiles, vous voyez, ça bouge. Donc là, vous avez, c'est un mouvement accéléré, mais vous avez Jupiter avec les quatre satellites. Et le satellite le plus proche, il met un jour et demi. Donc vous comprenez que si on regarde régulièrement le système, eh ben, ça change. On voit qu'il n'est pas toujours pareil. Alors Galilée, il fait des dessins. Le 7 janvier 1610, il dessine Jupiter avec deux étoiles à l'est et une étoile à l'ouest. Bon, il dit voilà, comme tous les astronomes, c'était le premier à faire ça. Mais depuis, tout le monde fait ça. Maintenant, on prend des photos ou des images CCD. Autrefois, on faisait des dessins. Donc Galilée, le 7 janvier, ben, il dessine ce qu'il voit, Jupiter avec des petites étoiles. Il revient le lendemain et qu'est-ce qu'il voit ? Ben, il retrouve Jupiter. Et les trois petites étoiles, ben, elles sont toutes les trois à droite de Jupiter. Ah, ben, il se dit, ben, c'est tout simplement Jupiter qui a bougé. Voilà, il est parti par là, et puis les étoiles, elles sont toutes du même côté. L'ennui, c'est que le mouvement de Jupiter, c'était qu'il s'en allait par là. Il allait à droite. Donc les trois petites étoiles, elles auraient dû être à gauche de Jupiter. Alors là, Galilée, il comprend plus rien. Il dit, ça va pas, Jupiter, il s'en va dans un sens, et les étoiles, elles s'en vont pas dans le bon sens. Alors il revient le 9 janvier en disant, ben là, maintenant, je vais voir ce qu'il en est. Ah, il avait des nuages, pas de chance. Les astronomes, vous connaissez tous ça. Eh ben voilà, Galilée, son troisième jour d'observation, qui devait résoudre des problèmes, eh ben, il y avait des nuages. Et quand il revient le 10 janvier, eh ben, il ne voit plus que deux étoiles. Le 11, elles ont changé de place. Et puis petit à petit, ben, il se rend compte que ces petites étoiles, elles bougent. Et il finit par comprendre ben, que tout simplement, ces petites étoiles, c'est des décors qui tournent autour de Jupiter. Donc là, vous avez les dessins de Galilée lui-même. Les dates, c'est moi qui les ai mises. Donc voilà, Galilée découvre ses satellites et essaye de comprendre ce qui se passe, mais il comprend vite que ça tourne autour de Jupiter. Alors il publie un livre, le Sidereus Nuncius, où il va raconter tout ça. Et vous vous rendez compte qu'il y a un problème, c'est que quatre petits points. Lequel est lequel ? Je vous ai dit, il y a Io, Europe, Ganymède et Callisto. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Ben oui, mais comment on fait pour savoir lequel est lequel ? Hein, est-ce que c'est ces trois-là ? Pourquoi il y en a deux ? Là, vous en avez trois, là, il y a ça. Pas facile. Et pourtant, Galilée va essayer. Alors, il va faire des dessins, des essais, il va supposer que, voilà. Et au bout d'un certain temps, il va dire, ben voilà, ça y est, je sais lequel est lequel. Et je peux vous dire, quand on voit, le numéro 1 est là, le numéro 2 est là, etc. Alors, pour leur mettre un nom. Alors Galilée va les appeler Principarus, Victrifarus, Cosmifarus, Ferdinandifarus, les astres médicéens, parce que tout simplement, c'est la personne qu'il paye qui lui donne les noms. Et d'un autre côté, il y a un autre qui va lui aussi observer et qui va donner ces noms-là. Et c'est ces noms-là qui vont être conservés dans la suite. Galilée, il était un petit peu, comment dirais-je, intéressé. Il vendait tout. Donc il vendait les noms des satellites, il vendait sa lunette. Il a même essayé de vendre les satellites à la cour d'Espagne, mais il n'a pas réussi. Pourtant, ce qu'il voulait vendre, c'était très astucieux, je vais vous l'expliquer. Alors, Galilée explique, comment j'ai fait pour les identifier ? Ben, j'ai regardé celui qui va le plus vite. Et je l'ai surveillé. Donc le plus vite, c'est celui qui allait le moins loin. Donc j'ai su qu'en un jour et demi, il tournait. Donc une fois que je l'ai identifié, connaissant son mouvement, chaque fois que j'observais les satellites, je pouvais le retrouver. Et une fois que j'ai fait ça avec le premier, j'ai fait ça avec le deuxième. Et puis une fois que j'ai identifié le deuxième, impeccable. Et je suis passé au troisième, puis au quatrième. C'est comme ça que je les ai identifiés. Alors aujourd'hui encore, on dit « c'est pas possible ». Et Kepler a dit « Mais non, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On ne peut pas faire comme ça. » Pour une raison simple, c'est qu'on ne les observe que pendant la moitié du temps. Quand il fait jour, on ne les voit plus. On ne les voit que la nuit. Et étant donné leur vitesse, on n'a pas assez d'informations pour pouvoir les identifier. Et pourtant, Galilée dit qu'il le fait. Alors on pense que Galilée a triché. Enfin, triché, n'exagérons rien. Mais il a utilisé le fait que les satellites n'avaient pas tous la même luminosité, mais il y en avait qui étaient un petit peu plus lumineux que les autres. Donc ça lui a permis, quand il avait un doute, de trancher et de savoir lequel était lequel. Mais ça, il ne le dit pas. Mais obligatoirement, il l'a fait, parce que c'est vrai, Kepler avait raison, ça n'est pas possible de faire exclusivement comme ça. Alors maintenant, ces satellites, ils ont aussi une caractéristique extraordinaire, c'est qu'ils passent devant et derrière Jupiter très régulièrement. Io, il met un jour et demi pour faire un tour, et ben à chaque fois, il va passer derrière Jupiter par rapport à la Terre, et il va passer aussi dans l'ombre de Jupiter, ombre projetée derrière Jupiter, parce que le Soleil éclaire Jupiter, et derrière, ça fait une ombre. Eh bien, le satellite, il passe dans l'ombre. Et donc, tous ces phénomènes, ce qu'on appelle ces phénomènes d'éclipse et d'occultation, eh ben, ils sont tout simplement visibles depuis la Terre. Et c'est ça que Galilée veut vendre. Il va dire, moi, je vous dis où sont les satellites, quand est-ce qu'il y a une éclipse? Et donc, si je vous donne une table avec les heures des éclipses, et donc, quand vous observez vous-même l'éclipse, vous avez l'heure, parce qu'il faut bien penser qu'il n'y avait pas d'horloge à l'époque, il y avait que le soleil et un cadran solaire. Donc, Galilée trouvait un moyen de connaître l'heure en observant les satellites de Jupiter. Il n'a pas réussi à vendre la technique. C'était encore difficile. Galilée n'avait pas tous les éléments pour faire ça, mais cette technique a été utilisée avec succès plus tard. Voilà. Alors voilà ce que c'est qu'une éclipse. Vous voyez, là, vous avez ce satellite qui se rapproche de Jupiter et il va rentrer dans l'ombre de Jupiter. Voilà. Hop. Vous voyez, il se déplace et là, il disparaît tout d'un coup. Il atteint pas Jupiter, il disparaît. Donc c'est ça, les éclipses des satellites de Jupiter. Et ça arrive très souvent parce que, je vous dis, ça tourne très vite. Peut-être pas aussi vite que ça, mais ça tourne quand même assez vite. Quand on les regarde, on attend une heure ou deux, et hop, on en voit un qui disparaît. Voilà, donc vous voyez, c'est ici qu'on a l'éclipse. Ça se passe entre là et là, vous voyez, c'est dans cette zone-là. Ou dans cette zone-là que les satellites disparaissent, ou réapparaissent, évidemment, quand ils sortent de l'ombre. Alors, tout le monde observe les éclipses à partir du XVIIe siècle, parce que vraiment, c'est un truc extraordinaire. Et il y en a un qui se dit, mais comment que ça se fait qu'elles sont pas régulières, ces éclipses? Des fois, elles sont en avance, et des fois, elles sont en retard. Alors, bon, tout le monde se pose la question, comment que ça se fait? Et il y en a un qui comprend, c'est Rømer, un Danois, qui est à l'Observatoire de Paris, et qui dit, c'est que tout simplement, la lumière a une certaine vitesse. Parce qu'on imaginait avant que la lumière était instantanée. On voyait directement, il n'y avait pas de vitesse de la lumière, c'était instantané. Eh bien, grâce au satellite de Jupiter, on a compris, parce que comme c'est très loin, ça met quand même plus d'une demi-heure pour venir, eh bien, il y avait 10 minutes d'avance ou 10 minutes de retard. Vous voyez, là, on a la Terre qui tourne autour du Soleil, et là, vous avez Jupiter avec les satellites qui tournent autour. Donc quand la Terre est ici, la distance est courte, mais quand la Terre est là, vous voyez que la distance est beaucoup plus longue. Donc c'était pour ça que la lumière, elle mettait plus de temps à arriver quand la Terre était là que quand elle était là. Donc ici, l'éclipse était en retard, et là, elle était en avance. Voilà, si on prend une distance moyenne. Donc voilà, on a découvert la vitesse de la lumière grâce aux satellites de Jupiter. Alors on a aussi utiliser les satellites pour la détermination des longitudes. C'est ce que je vous ai dit, Galilée entrevoit la possibilité... Alors, vous allez me dire, je vous ai parlé d'une horloge, et là, je parle de longitude. Comment on fait pour déterminer la longitude d'un lieu? Bon, je pars en Amérique, au bout du monde, et puis je dis, quelle est la longitude? Je suis un géographe, un explorateur, j'arrive dans une contrée inconnue, je vais faire une carte, il faut que je calcule la longitude. Comment je fais? Eh ben, je mets un cadran solaire, et si j'ai un cadran solaire, j'ai l'heure locale, l'heure du soleil. Et puis à Paris, pendant ce temps-là, ils font la même chose. Et évidemment, je n'ai pas de téléphone pour communiquer à l'époque. Et la différence de longitude, c'est tout simplement la différence de position du soleil. Si moi je vois le soleil très haut dans un lieu, et que dans un autre lieu je le vois presque couché, eh ben, la différence de position du soleil, c'est ma différence de longitude, tout simplement. Mais il faut que les deux observations se fassent en même temps. C'est-à-dire que les gens qui sont à Paris et ceux qui sont au bout du monde, en Amérique, il faut qu'ils travaillent à la même heure. Et il n'y a pas de radio et il n'y a pas d'horloge à l'époque. Comment faire? Donc ils n'ont même pas pu emmener une horloge depuis Paris pour avoir l'heure de Paris. Elles ne tiennent pas, les horloges. Eh ben, on va utiliser les satellites de Jupiter. on va en Amérique, et puis tel jour, on a compté les jours quand même, on connaît la date, on sait qu'il va y avoir une éclipse. Ben, on l'observe à Paris, on l'observe en Amérique, et quand on voit le satellite disparaître, eh ben, on sait qu'on est à la même heure, qu'on travaille en même temps. On a la même heure à Paris et en Amérique. On regarde où est le soleil, et la différence de longitude du soleil sera la différence de longitude entre les deux lieux. Donc, toute la cartographie du monde va se faire avec les satellites de Jupiter. Toutes les cartes comme ça. Alors, en fait, il y a deux utilisations différentes. Il y a le géographe et le voyageur. Alors, pourquoi ? Voilà, ça, c'est extrait de la connaissance des temps. Donc, c'est les éphémérides publiées depuis 1667 à l'Observatoire de Paris. On continue encore aujourd'hui à la publier. Et dans le volume de 1768, qu'est-ce qu'on dit ? Pour trouver les longitudes, on observera en différents lieux de la Terre la même, alors immersion ou émersion, c'est les éclipses des satellites, et l'on comparera le temps vrai, c'est le temps du Soleil, donc la longitude du Soleil, auquel ces observations ont été faites en divers lieux. La différence en heures, minutes et secondes sera celle des méridiens, etc., etc. Donc voilà, on calcule les longitudes. Mais si on est un voyageur, on se promène, puis tout d'un coup on est en Amérique, on dit « bah mince, je suis perdu, où est-ce que je suis ?» Bah, pour trouver la longitude d'un lieu quelconque de la Terre, il suffit d'observer une éclipse, on compare le temps solaire du lieu avec la valeur de l'éclipse calculée pour Paris, et on en déduit la longitude. Donc il faut avoir un livre où il y a les heures des éclipses denotées à l'avance. Et avec ce livre, quand on est perdu, on regarde Jupiter, on regarde quand est-ce qu'il y a une éclipse, et on a l'heure de Paris, avec laquelle on va calculer sa longitude. Donc vous voyez, les satellites de Jupiter, je vous parle d'exploration, mais ça servait quand même à quelque chose. C'était pas seulement pour rigoler qu'on regardait ça. Voilà, alors on retrouve là, en 1703, on observe l'immersion du premier satellite dans l'ombre de Jupiter le 28 août, à Paris, à Bologne, et donc on a la différence des méridiens entre Paris et Bologne, à Lyon, etc., etc. Voilà. Et ça, il y en a des tonnes et des tonnes pour faire des cartes. Et dans les éphémérides, pour 1714, janvier, émersion, jour, heure, minute, seconde, on a, vous voyez, il y en a quasiment tous les jours, des éclipses, il y en a tout le temps, donc c'est pas très difficile, il suffit de voir Jupiter. On le voit pas tout le temps, évidemment, mais c'est quand même mieux que rien. Alors, quand Louis XIV crée l'Observatoire de Paris, il charge les astronomes de faire une carte de France. Évidemment, première chose, le roi, il a payé pour un observatoire, mais il voulait quand même avoir des résultats. Ce n'était pas pour que les astronomes s'amusent. Donc, il dit, vous allez me faire la carte de France. Alors, ça, c'était la carte qu'on connaissait avant. Et grâce au satellite de Jupiter, voilà, on a calculé la vraie carte. Alors vous comprenez que Louis XIV, il n'a pas été content de voir qu'on lui réduisait la France. Il a dit « sont bien ingrats les astronomes de me retirer un quart de mon territoire ». Alors pendant ce temps, il faut bien penser qu'il n'y avait pas que Jupiter qui avait des satellites. Il y avait aussi Saturne. Alors on a des dessins de découverte de satellites. Donc vous voyez Saturne avec son anneau. Et là, on découvre le 23 décembre 1672 le satellite Rhéa. Alors en 1655, on a déjà découvert Titan, qui est le plus gros des satellites. Alors, c'est un problème difficile, le problème du mouvement des satellites. Pourquoi ? D'abord, Jupiter, il est beaucoup plus aplati que la Terre. Et le fait de tourner autour d'un corps aplati va modifier le mouvement. Donc ça, c'est pas facile à modéliser. En plus de ça, je vous ai expliqué que les satellites, ils étaient gros. Donc lourd, donc perturbation gravitationnelle mutuelle, compliqué. En plus de ça, il y a le Soleil, la planète Saturne qui n'est pas loin. Donc tout ça, ça complique encore. Et comme vous avez les trois premiers surtout satellites de Jupiter qui tournent comme ça, ils sont en résonance. Ça veut dire quoi en résonance ? Vous savez ce que c'est ? Quelque chose qui résonne, ça fait du bruit. Eh bien ces résonances, ça les oblige à suivre une certaine orbite. Et en fait, on a une relation entre leur longitude. Et donc, les satellites de Jupiter ne peuvent avoir que certaines positions relatives, mais pas d'autres. Ils sont forcés dans ces positions-là. Ce qui complique encore la modélisation, comme on dit, et donc pour calculer leur position, ça n'est pas facile. Et pour nous, quand on envoie des sondes spatiales vers ces satellites, eh ben c'est pas facile parce qu'il faut qu'on les positionne à quelques kilomètres près. Et ces perturbations, c'est évidemment plus qu'un kilomètre, c'est même des centaines de kilomètres. Alors les observations, on a une modélisation, mais d'un autre côté, il faut qu'on observe. Donc pendant des siècles, on va observer les éclipses des satellites de Jupiter, avec de plus en plus de précision, évidemment. Ça, c'est pour vous montrer une observation d'éclipse par Delambre en 1799. Alors, quand on observe, ben voilà ce qu'on note, plein de choses pour être sûr que ce soit très, très précis. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour vous montrer qu'en 1799, eh ben déjà, il prenait bien toutes les valeurs numériques qu'il fallait. Il suivait bien un bon protocole d'observation. Et aujourd'hui, on se sert encore de ces observations. C'est ça qui est important. Alors, les observations d'éclipse, au début, on regardait, puis on disait « Ah, ça y est, le satellite, il disparaît !» Ou bien « Ah, ça y est, le satellite, il sort !» Puis on notait l'heure. Et pour avoir plus de précision, ben, on a noté la luminosité du satellite. Donc, on voit le satellite, il rentre dans l'ombre et sa luminosité diminue. Le problème, c'est qu'à la fin, on ne sait pas trop ce qui se passe. Pourquoi ? Ben, parce que vous avez Jupiter, là, il a une atmosphère très épaisse. Et donc, les rayons lumineux qui rasent Jupiter, ils sont réfractés par l'atmosphère de Jupiter. Donc, d'un angle, on ne sait pas trop combien, parce qu'on ne la connaît pas, l'atmosphère de Jupiter. On n'est pas allé voir comment c'était là-bas. Donc, le satellite, bah, quand il rentre dans l'ombre, on ne sait pas trop à quoi ça correspond comme position. Donc, ça fait que bah, ce n'est pas très précis. Mais aujourd'hui, on trouve que ce n'est pas très précis. Mais à l'époque, c'était bien suffisant. Vous comprenez que la précision, elle augmente. Autrefois, on les situait à 10 000 km dans l'espace, les satellites. Aujourd'hui, on en est à quelques kilomètres. Donc, vous comprenez qu'il faut avoir des bonnes observations précises et un modèle théorique très précis. Bon, ça, c'est pour vous montrer une occultation de Ganymède par Jupiter. Alors, vous comprenez bien que le bord, là, il n'est pas net, que le satellite, il rentre petit à petit. Donc, qu'est-ce que c'est l'instant du phénomène ? Vous comprenez bien que ce n'est pas facile de le déterminer très précisément. Donc, ces observations d'éclipses qui ont servi pendant des siècles, ben, on va les abandonner petit à petit au profit d'autres observations plus précises. Alors d'abord, les observations de position. Alors ça, c'est des mathématiques. On va avoir une position. Alors vous allez mettre Jupiter ici ou un satellite. On va mettre même un autre satellite. On va en avoir un autre qui est là et on va calculer des coordonnées. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile parce que quand on regardait une éclipse, ben on disait ben voilà, le phénomène il arrive à telle heure, c'est bon. Tandis que là, il va falloir faire des mesures, mesurer des X et des Y sur un référentiel qu'on va avoir vers le pôle nord céleste et sur l'équateur. Donc ça, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et plus précis, mais plus compliqué. Alors voilà, on va construire de l'instrumentation. Alors, il y a plein d'instrumentation qui va apparaître au cours des siècles, mais ce qui est amusant, c'est ce qu'on appelle un héliomètre. Pourquoi on l'appelle héliomètre ? Ça vient parce qu'il était fait, il a été fait pour mesurer le diamètre du Soleil. En fait, pour mesurer des petits angles. Alors, le système, il est amusant, c'est que vous avez une lentille qui est coupée en deux. Donc ça veut dire que quand on déplace les deux moitiés de lentille, ça, ça fait une image et ça, ça en fait une autre. Donc quand vous avez un satellite, eh ben, si vous avez vos deux moitiés de lentille qui ne sont pas en face de l'autre, vous verrez deux satellites. Vous allez me dire, bon, c'est malin, mais à quoi ça sert ? Eh ben, c'est que les satellites, ils sont plusieurs, ils sont quatre. Donc vous alignez deux satellites, donc vous avez deux satellites, et si vous avez ça, tout d'un coup, vous en avez quatre. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez déplacer les deux demi-lentilles jusqu'à ce que les satellites qui vont se déplacer les uns par rapport aux autres soient superposés. Et si les satellites sont superposés, la distance entre les deux lentilles, ce sera la distance entre les satellites. Donc ça, vous voyez, c'est la technologie qui arrive et on fait des... Alors ça, on est au 19e siècle, hein. Mais au 19e siècle, ils étaient très forts en mécanisme, en petits mécanismes, en grenage, tout ça. C'était vraiment leur truc à l'époque. Donc ils étaient très, très bons. Et grâce à ce système, on mesurait les distances relatives entre les satellites. Et à partir de ça, on a pu progresser. Alors ça, vous voyez l'avantage par rapport aux éclipses, c'est que les éclipses, bah, faut attendre qu'il y ait une éclipse pour l'observer. Tandis que ça, on peut le faire n'importe quand. Il suffit de voir deux satellites, on déplace les deux lentilles, nos deux satellites, bon, ils vont se déplacer l'un par rapport à l'autre, puis hop, ils vont se superposer. Et quand ils se superposent, on a la distance entre les deux satellites. Alors, on continue à observer nos satellites, on fait ce qu'on appelle des éphémérides pour calculer leur position et on les surveille. Donc, voilà ce que fait l'astronome. Il fait un modèle de mouvement, il observe et il améliore son modèle de mouvement. Et qu'est-ce qu'il fait après ? Il réobserve pour voir si son modèle est bon. Et il continue comme ça éternellement. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça sert ? Eh bien voilà, à quoi ça sert, c'est qu'on se dit, ben, les satellites, dans mon modèle, je les fais tourner régulièrement. Et la question que je me pose, c'est, est-ce qu'ils accéléreraient pas par hasard ? Est-ce qu'ils peuvent accélérer ? Est-ce qu'ils sont vraiment dans un mouvement complètement uniforme ? Ou bien est-ce qu'ils accélèrent ? Alors là, il faut observer pendant très longtemps. On observe pendant très longtemps, on va chercher des observations de 1700 et quelques, on en met jusqu'à 1950, et on compare notre modèle aux observations. Et on regarde si les satellites se décalent, comme au début, pour la vitesse de la lumière, ils étaient en avance ou en retard. On va voir s'ils sont en avance ou en retard. Et qu'est-ce qu'on constate ? Ben oui, ils accélèrent. Ah, comment que ça se fait qu'ils accélèrent ? Alors là, on était étonnés. Et en fait, on a compris que ce n'était pas les satellites qui accéléraient, mais que c'était la Terre qui ralentissait. Parce que la Terre, elle ralentit. Autrefois, on ne savait pas qu'elle ralentissait, donc on utilisait son mouvement comme une horloge. Mais la Terre ralentissait. Donc si la Terre ralentit et qu'on l'utilise comme quelque chose d'uniforme, eh bien, tout ce qu'on observe va accélérer. Et donc, on a vu les satellites de Jupiter accélérer. Ils n'accéléraient pas, c'était tout simplement la Terre qui ralentissait. Donc c'est aussi comme ça qu'on a compris que la Terre ralentissait. Donc vous voyez, utilité des satellites de Jupiter qui nous ont permis de comprendre que la Terre ralentit dans son mouvement de rotation autour de son axe. Alors je vous ai parlé des héliomètres, c'était des observations à l'œil, hein, on mettait son œil derrière l'oculaire. Quand apparaissent les observations photographiques ? Alors l'avantage des observations photographiques, c'est que tout simplement... Eh bien, on a une belle image, et puis je peux prendre mon double décimètre et puis mesurer la distance entre les deux. Et ça, je peux le faire autant de fois que je veux. Donc, statistiquement, si je fais mes mesures beaucoup de fois, je vais augmenter la précision. Donc, maintenant qu'on observe sur des images enregistrées, on va encore améliorer notre précision. Alors voilà un exemple de plaque photographique. Alors comme une plaque photographique, ça coûte très cher, eh ben on faisait 5 poses sur la plaque. Donc on a Jupiter, on a ses satellites qui sont là. On déplace un peu la plaque, on refait une pose et puis on fait ça 5 fois. Et on a, vous voyez, c'est très joli, on voit un joli Jupiter, des jolis satellites. Donc on peut mesurer ça très très bien et avoir quelque chose de très bon. L'inconvénient, c'est que Jupiter, il est très brillant, il est éblouissant. Alors on a essayé d'avoir des techniques pour assombrir Jupiter. Et alors, bah voilà, la technologie, vous mettez des masques qui vont filtrer plus longtemps la lumière de Jupiter que celle des satellites. Voilà, là vous mettez vos satellites, vous mettez une espèce de petite barre pour cacher Jupiter. Ou bien, ça c'est des filtres, vous mettez des filtres très épais au niveau de Jupiter et des filtres moins épais au niveau des satellites. Donc vous voyez encore, la technologie va s'efforcer de nous donner des images du système de Jupiter qui soient très très belles. Et ça marche, ça marche. Alors maintenant, jusqu'à présent, je vous ai parlé des satellites comme de petits points qui tournaient autour de Jupiter, mais je vous ai quand même montré que ça permettait de déterminer la vitesse de la lumière, de déterminer les longitudes sur Terre, de démontrer que la Terre ralentissait. Mais ils sont faits de quoi, ces trucs-là, ces petits points qui tournent ? Alors, on va faire des dessins. Donc là, c'est des dessins des années 1970. Les astronomes se mettent derrière leur télescope, ils regardent à l'oculaire, ils font des dessins. Ah, vous voyez que les détails à la surface, c'est pas terrible, hein, entre Io, Europe, Ganymède et Callisto, ils se ressemblent quand même beaucoup. Hein. Bon, ils sont pas, c'est pas complètement uniforme, hein. Il y a des taches. Ganymède, il y a une grosse tache. Europe, moins. Io, on sait pas trop. Donc ça nous apprend pas grand-chose, en fait. Alors arrivent les CCD, et avec les CCD, on a cet avantage d'avoir des images un peu meilleures. Et voilà, en 1980, on peut, au pic du midi, faire ce genre d'image. Vous avez Jupiter, et là, vous avez Ganymède, et on retrouve une tache. On n'a guère plus. Mais c'est l'époque où on lance les sondes en disant « on va lancer une sonde jusqu'au satellite, et elle va nous envoyer des photos, et moi, on va voir de quoi ils sont faits ». Alors les satellites de Saturne, pareil, plaque photographique des satellites de Saturne, on est très embêté parce que l'anneau de Saturne est très brillant. Donc on met un filtre au-dessus de Saturne et son anneau, et on va voir tous nos petits satellites autour apparaître. Voilà, Titan, Dionée, Rhea. Donc voilà une plaque photographique qui nous montre les satellites de Saturne. Encore des petits points, mais avec les satellites de Saturne, c'est exactement la même histoire qu'avec les satellites de Jupiter, sauf que ça arrive plus tard parce qu'ils sont moins lumineux et qu'il faut des instruments plus puissants. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on numérise les plaques photographiques et on recommence le travail qui avait été fait autrefois avec les techniques d'aujourd'hui. Alors, on a des scanners. Je vous ai montré la photo d'un scanner qu'on utilise. C'est une machine qui fait des mesures à quelques nanomètres. Donc, c'est pas du tout un scanner de bureau pour vos photos de famille. C'est des machines qui sont thermiquement stabilisées à mieux que le dixième de degré. Et on va numériser les plaques photographiques. Si la température change de plus d'un dixième de degré, eh bien les valeurs dérivent, et j'ai fait l'expérience, ça devient faux, les mesures deviennent fausses. Donc là encore, la technologie, on en a besoin. Et ça, alors ça nous permet, une fois qu'on a numérisé ces plaques photographiques, de faire le travail d'analyse numériquement avec les ordinateurs, et on peut observer dans le passé avec la précision d'aujourd'hui. Et tout ça, ça va nous apprendre des choses. Je vais y venir petit à petit. Ça, c'était juste pour vous donner la précision de mesure. Donc, vous voyez, les éclipses par Jupiter donnaient des précisions de 450 km en position des satellites dans l'espace. Et aujourd'hui, on arrive à descendre à 15 km avec des techniques au sol. Je ne parle pas des missions spatiales, parce qu'une sonde va mesurer avec une plus grande précision, mais ça va être juste un point quand elle y est, puis après, elle n'y est plus, et on n'a plus aucune nouvelle. Donc, il faut qu'on continue à observer au sol. Alors, ce qui nous intéresse, c'est toujours cette fameuse accélération. Y a-t-il une accélération dans le mouvement des satellites ? Alors, aujourd'hui, on a trouvé d'autres sortes d'éclipses. C'est tout simplement non pas l'éclipse d'un satellite par l'ombre de Jupiter, mais l'éclipse d'un satellite par l'ombre d'un autre satellite. Or, comme les satellites n'ont pas d'atmosphère, ça donne des phénomènes très très nets avec une très très grande précision. Alors, aujourd'hui, évidemment, sur Internet, vous avez des éphémérides qui vont vous donner les positions relatives des satellites, les valeurs. On a tout ce qu'il faut comme outil pour faire les observations. Donc ça, c'est quelque chose qui est pratiqué par les astronomes amateurs à grande échelle parce que c'est des objets très brillants. Donc n'importe quel astronome amateur peut observer ça et faire des mesures de phénomènes très très facilement. Et voilà d'ailleurs le réseau d'observateurs, d'astronomes amateurs que nous avons dans le monde pour leur demander d'observer les satellites de Jupiter. Parce qu'évidemment, nous, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être partout, tout le temps, tous les jours. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on est en connexion avec tous ces gens-là, qui sont des astronomes amateurs à 90%. Et quand on leur envoie un message par Internet, on dit « attention, il va y avoir des phénomènes », ils se mettent à observer et ils nous renvoient les observations. Donc vous voyez, il y en a un petit peu partout. Et c'est nécessaire parce que quand on voit Jupiter depuis le Canada, on ne le voit pas chez nous. Donc il n'y a que ceux-là qui peuvent observer. Donc c'est absolument nécessaire d'avoir tous ces gens-là. Et en plus de ça, évidemment, il y a la météo. Il n'y a pas des nuages partout. Bon. Alors voilà le principe d'une occultation mutuelle entre deux satellites. Quand vous avez les deux satellites qui se touchent, si depuis la Terre, vous ne les voyez pas aussi bien comme ça, vous n'avez qu'un flux qui arrive, un flux total de tout ça. Et quand les satellites vont bouger comme ça, vous voyez, le flux lumineux va changer. Donc voilà tout simplement ce qu'on va observer. Et à partir de tout simplement cette mesure de flux que n'importe quel astronome amateur va faire avec un caméscope, mais vraiment un caméscope quelconque, eh ben il va mesurer le flux et il va pouvoir nous envoyer ça. Et nous, on va calculer une fonction qui va dépendre de la distance mutuelle entre les deux satellites. C'est ce qu'on appelle une inversion de courbe. On fait l'inversion de courbe. Donc tous les astronomes, amateurs ou autres, vont nous renvoyer les courbes. Nous, on va faire les inversions de courbe pour remonter au mouvement des satellites. Donc voilà, bon, ça, je passe. Alors, vous voyez à l'œil une occultation entre deux satellites, ça c'est en 1973. Quand on fait les dessins, on arrive à voir les deux satellites qui passent l'un devant l'autre. Si on a une image brute, en fait, c'est ça qu'on voit. Et avec l'optique adaptative, alors ça c'est une optique adaptative de 1997, on voit un satellite et l'autre à côté. Donc déjà dans l'observation, il y a des progrès. Ça c'est des observations d'astronomes amateurs. Donc vous voyez l'ombre de Io sur Ganymède. Là vous avez Io, l'ombre de Io et Ganymède en dessous. Donc ça c'est une image faite avec un caméscope par des astronomes amateurs. La même chose ici, voilà, vous avez tout simplement une occultation entre deux satellites. Alors les missions spatiales, bah, faut y arriver aux missions spatiales. Bah, y en a deux principales, il y a Voyager, que vous avez en haut à gauche, et Galileo, en haut à droite. Alors bah, Voyager, il n'a fait que passer. Vous voyez, il est arrivé, hop, il est passé, il a pris des photos très rapidement et il est reparti. Alors que Galileo, lui, il est arrivé et il a fait plein d'orbites autour du système, donc il a vraiment eu le temps de prendre beaucoup de photos. Pas de chance, son antenne réémettrice était en panne, donc on n'a pas eu grand-chose. Mais enfin, bon. Par contre, de voyageurs, on a eu beaucoup de données. Alors l'intérêt de ces sondes, c'est que pour mesurer la taille des satellites, c'est très facile. Et pour mesurer la masse des satellites aussi, c'est très facile, parce que quand une sonde arrive près d'un satellite, elle est déviée par la masse du satellite et elle en calcule sa masse très facilement. Donc ces deux sondes nous ont apporté beaucoup d'informations. Donc voilà les photos des sondes. Voilà Io, Europe, Ganymède, Callisto. Io, on a découvert qu'il y avait des volcans extraordinaires. Europe, que c'était une banquise. Ganymède, qu'il y avait des volcans de glace. Et que Callisto, c'était un petit peu comme Ganymède aussi, il y avait de la glace à l'intérieur qui sortait comme des volcans du sol. Alors, ça posait plus de questions qu'autre chose. Pourquoi Io, il y a des volcans très actifs? Pourquoi Europe, il y a une banquise? Est-ce qu'il y a de l'eau en dessous? Et dans Ganymède, est-ce qu'il y a de l'eau? Enfin, ça nous a posé plus de questions qu'autre chose. Alors, on a essayé de continuer à observer les satellites. Alors, je vous ai parlé d'occultation. Alors, on s'est dit, s'il y a des volcans à la surface de Io, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais essayer de voir dans quelle longueur d'onde vont émettre les volcans. Et je vais observer dans cette longueur d'onde-là. Et quand il y a une occultation de Io, je ne vois que l'occultation des volcans. Donc, les volcans, on les a observés depuis la Terre par occultation. Alors, si on a une occultation dans le visible, c'est la fameuse courbe que je vous ai montrée tout à l'heure. Les deux satellites passent l'un devant l'autre, il y a moins de lumière, et puis après, ça revient. Mais si je suis dans la longueur d'onde du volcan, eh bien, c'est au moment où le volcan est occulté qu'il y a une chute brutale de flux. Et donc, on peut mesurer la position du volcan et la force d'émission du volcan. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on a remarqué que les volcans de Io se déplaçaient à la surface de Io très rapidement. Ce n'est pas des trucs qui restent toujours au même endroit. Ils se déplacent sans arrêt. Donc voilà des photos de Io. Et depuis la Terre, on continue à étudier ces... Alors on a maintenant des récepteurs infrarouges. Et effectivement, ce qui est très lumineux, c'est tout simplement là où il y a des points chauds volcaniques. Donc ça, c'est vu depuis la Terre par le télescope spatial et une vision infrarouge. Europe. Alors Europe, il y a une banquise. Vous pouvez remarquer, il n'y a pas de cratère comme sur la Lune. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a un caillou qui tombe dessus, il y a de l'eau qui ressort, qui recouvre le trou, qui regèle, et hop, terminé. Donc ça, c'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'il y a un océan sous la banquise? Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est comprendre sa structure interne. Et il y a une chose qu'on comprend, c'est que selon la structure interne, le mouvement du satellite ne va pas être le même. Si c'est mou, si c'est pas mou, si c'est mou, ça veut dire que c'est chaud. Si c'est chaud, il y a de la dissipation de chaleur. S'il y a de la dissipation de chaleur, il va y avoir une accélération du satellite. On retombe toujours sur ce phénomène. Donc on a besoin de bien suivre le mouvement des satellites pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ça, on a fait tout un tas de projets. Donc un jour, d'ici un siècle ou deux, on enverra des sondes à la surface d'Europe pour essayer de percer la banquise. et peut-être qu'on trouvera un océan avec de la vie. Le seul endroit où il y a peut-être encore de la vie dans le système solaire, c'est probablement sous la banquise d'Europe, où la température devrait être de 20-25 degrés. Hein. Ce n'est pas froid, parce que le satellite est sûrement chaud à l'intérieur. Voilà, mais on n'en est pas encore là. Donc voilà, on essaye de faire des modèles. Donc vous voyez, il y a une banquise, et en dessous, il y a peut-être un océan d'eau liquide. Alors on peut avoir de la glace chaude, c'est vrai que c'est possible aussi. On ne sait pas encore, on continue à étudier les choses. Alors vous connaissez tous les effets de marée sur la Terre, hein, vous avez des marées hein, au bord de la mer. Et le fait qu'il y ait ces marées, bah, c'est que tout simplement la Terre va ralentir. Je vous rappelle que les satellites de Jupiter nous ont bien fait remarquer que la Terre ralentissait. Et si la Terre ralentit, la Lune s'éloigne. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une marée du satellite sur la planète. C'est comme la Lune et la Terre. Et donc, la Lune ou le satellite doit s'éloigner. Donc, il y a une accélération. Par contre, s'il y a des marées de la planète sur le satellite, alors le satellite va se rapprocher. Donc, l'idée, c'est de dire, eh ben, le satellite de Jupiter, est-ce qu'il se rapproche ou est-ce qu'il s'éloigne ? Donc, on va essayer de le mesurer. Voilà. Alors, on l'a fait. Bon, ça, c'est un... on a mesuré le fait que le satellite se rapprochait de Jupiter. On a mesuré la quantité avec laquelle il se rapprochait et on s'est dit, bah, s'il se rapproche à cette vitesse-là, il dissipe de la chaleur, une quantité de chaleur qui est ça doit être des gigawatts, je ne sais pas trop quoi, entre 2 et 2,5 gigawatts par mètre carré, ou watts par mètre carré en global, oui, ça doit être ça. Voilà, c'est les pointillés. On a dit, eh bien, cette accélération du satellite qui se rapproche de la planète doit nous donner un dégagement de chaleur de cette valeur-là. D'un autre côté, tous les gens qui avaient des récepteurs infrarouges ou sur les sondes spatiales ont calculé le flux qu'ils observaient à la surface du satellite et ça a donné ces points-là. Vous voyez tout ce que vous avez là. Et ça correspond. Donc on peut dire que Io est en équilibre thermique et qu'il se rapproche tranquillement de Jupiter et son énergie, ben, elle s'en va sous forme de volcan. Donc vous voyez, à partir d'observations, et on utilise pour ça les observations d'éclipses du 19e siècle, puisque pour mesurer le mouvement de Io qui se rapproche, ben, il faut évidemment avoir un temps très long. Quand on a une sonde autour de Jupiter, elle n'a pas le temps de voir ce mouvement-là. Elle est trop rapide, elle ne peut pas le voir, il faut plus d'un siècle pour voir ça. Donc voilà. Alors bon, Callisto, je voulais vous montrer ça. C'est que vous voyez, là, vous avez eu la chute d'une succession de corps. Et si on regarde le détail de ça, on voit qu'on a des espèces de montagnes avec de la glace au-dessous. Donc chaque fois qu'il y a un choc, il y a de l'eau qui ressort du sous-sol de Callisto. Alors voilà, c'est comme ça qu'on imagine Callisto. Mais bon, on n'y est pas encore allé, quoi. Le système de Saturne. Alors, le système de Saturne, voilà les satellites. Il y a plein de satellites et il y en a un gros qui s'appelle Titan. Alors, bon, il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est les principaux parce que c'est ceux qu'on a vus le plus vite. Et il y en a plein de petits, près de l'anneau ou plus loin. Voilà, donc ça, c'est les satellites de Saturne. Mais vous remarquez qu'en fait, il n'y en a qu'un gros. Alors, on se demande pourquoi, de quoi est fait Titan ? Eh ben, on a envoyé une sonde qui a lâché quelque chose sur Titan. C'est la sonde Huygens. Alors bon, ça, c'est pas un habitant de Titan qui prend des photos, qui nous les envoie. Hein. C'est une image. On a supposé que c'était ça qui était arrivé. Mais quand même, le petit machin-là a pris des photos. Et on a quand même une image de la surface de Titan. Voilà la surface de Titan. On pense que c'est des blocs de méthane congelés. Bon. Voilà. Et puis on a des cartes. Ça c'est quand la sonde descendait, elle a pris des photos de la surface. Donc voilà, Titan. C'est très froid et il y a une atmosphère très épaisse. Mais comme il est très loin, évidemment, c'est très très froid. Alors il y a aussi autre chose d'amusant, c'est qu'il y a beaucoup de glace dans ces satellites. Donc vous voyez, ces traînées blanches encore, c'est de l'eau qui monte du sous-sol. Alors on a remarqué qu'il y a un satellite qui s'appelle Encelade, il y avait des geysers, c'est-à-dire que de temps en temps, on voit de l'eau qui jaillit du sol. Alors ça aussi, c'est difficile à comprendre. Donc on va essayer, pareil, de mesurer le mouvement, d'essayer de voir s'il y a production de chaleur à l'intérieur pour faire sortir un geyser comme ça. Donc ça, c'est encore des questions qui se posent aujourd'hui. C'est ce sur quoi on est en train de travailler. Donc voilà des photos. Vous voyez les sondes, elles nous donnent des photos splendides où on voit la surface d'Encelade avec des geysers. Ben maintenant, il faut qu'on comprenne pourquoi il y a des geysers. Donc, vous voyez, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors ça, c'est d'autres satellites. Donc vous voyez qu'ils sont assez divers. Il y en a qui sont percés de plein de petits trous, qui ont été très bombardés. Puis d'autres, comme Mimas, qui n'ont pas du tout la même allure. Donc ça, maintenant, on a plein de photos, mais pour comprendre leur formation, ce n'est pas pour demain. Ça, c'est la caméra de la sonde Cassini qui a visité Saturne, qui nous envoie des photos, des satellites. Et comme on a des étoiles autour, eh ben, on va mesurer la position. Alors, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va mesurer des positions sur le ciel pour calculer encore le mouvement des satellites et essayer de comprendre ce mouvement, s'ils accélèrent ou s'ils n'accélèrent pas. Alors, il y a des tout petits satellites, mais ces tout petits satellites qui sont proches de l'anneau. Alors, on s'est posé la question, mais cet anneau, d'où il vient ? Pourquoi il y a un anneau aussi brillant autour de Saturne ? Alors, on a essayé de comprendre pourquoi il y avait aussi des tout petits satellites autour de l'anneau. Alors, depuis le pic du Midi, vous voyez, de temps en temps, la Terre passe dans le plan des anneaux. Donc, on ne voit plus l'anneau. Donc là, on commence à essayer de voir tout un tas de petits satellites. Alors, la sonde Cassini les a bien photographiés. Évidemment. Alors, on a vu des choses bizarres. On a vu qu'il y avait un lien entre les anneaux et les satellites. Donc, là, vous avez un anneau. Puis, vous avez des petits satellites qui tournent autour et qui ont l'air d'être les gardiens des anneaux. S'ils n'étaient pas là, ben, les anneaux se disperseraient. Donc, tout ça, ça tourne. Et on se rend compte qu'en fait, c'est les anneaux qui fabriquent des petits satellites. Et ça, ça nous donne un scénario pour la formation des anneaux. Est-ce que les anneaux de Saturne, ils sont jeunes ou ils sont vieux ? Alors, vieux, ça voudrait dire qu'ils aient des milliards d'années. Et jeune, ça veut dire qu'il y aurait une collision récente. Alors, on pense qu'à l'origine, autour de Saturne, il y avait des satellites comme les gros satellites galiléens autour de Jupiter. Il n'y avait pas tous ces petits. Il n'y avait ni anneaux, ni petits satellites. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un choc gigantesque, qui a détruit un ou deux, peut-être deux gros satellites qui auraient eu une collision et qui auraient été détruits. Donc il ne resterait plus qu'un Titan, et avec un énorme anneau, et cet anneau, petit à petit, il a refabriqué des satellites. Mais évidemment, il les a fabriqués plus petits. Alors vous voyez, quand vous regardez finalement Saturne et ses satellites, il y avait peut-être deux ou trois gros satellites, un choc gigantesque, il n'y en a qu'un qui reste, et avec l'anneau qui en était le résultat, ça a fabriqué petit à petit d'autres satellites. Et vous pouvez remarquer qu'effectivement, celui-là c'est le plus gros, puis après ils sont de plus en plus petits. Plus on se rapproche de Saturne, plus ils sont petits. Parce qu'évidemment, moins il y a de matière, puisque l'anneau, finalement, il s'épuise petit à petit. Donc on pense que l'anneau, il n'est pas très vieux et qu'il ne va pas durer longtemps. Mais tout ça, c'est quand même des centaines de millions d'années. Hein. Mais c'est quand même très jeune à l'échelle du système solaire. Alors maintenant, je vais vous parler d'Uranus. Donc voilà une photo d'Uranus avec ses satellites. Alors c'est pareil, même système, même style d'étude. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que tout ça. Alors, il y a des tout petits satellites aussi qui sont autour d'Uranus. C'est assez difficile à observer parce que là, c'est très, très, très loin. Donc là, il faut des gros télescopes. Alors, par exemple, il y a des anneaux aussi autour d'Uranus, très faibles. Alors, voilà une image que j'ai réalisée au VLT en optique adaptative. Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez tout simplement ici Uranus. Ce que vous voyez là, c'est un nuage. Et puis, vous avez l'anneau d'Uranus qui est là. C'était d'ailleurs le jour où la Terre passait dans le plan des anneaux d'Uranus que nous avons réalisé cette image. Et puis, alors là, c'est une image qui est brute, donc on a du mal à les voir, mais on a tous les petits satellites qui sont là, et effectivement d'autres qui, évidemment, vous avez un télescope de 8 mètres de diamètre, donc même des tout petits trucs, ça va quand même être assez brillant. Donc là, pour observer ces satellites, on a vraiment besoin de très très gros télescopes. Ici, c'est pareil. On est dans une bande infrarouge de façon que Uranus soit très sombre et que les satellites soient plus brillants. Donc on choisit évidemment la longueur d'onde dans laquelle on observe. Donc pareil, on essaye de comprendre comment ont été formés, comment sont faits les satellites d'Uranus. Alors là, il n'y a pas de sonde spatiale de prévu. Donc, ce sera pour une autre fois. Alors, il y a eu Voyager qui a pris des photos, mais c'est tout. Donc, satellite de glace, on retrouve encore le même style de satellite. Alors, le système de Neptune. Alors, le système de Neptune, pareil, mais alors là, on est encore plus loin. Alors, en fait, dans un petit télescope, quand vous regardez, vous voyez un point brillant. Hein, Neptune, pour voir une surface, c'est pas facile. Mais à côté de ce point brillant, il y en a un autre qui est vraiment très proche. C'est Triton. Donc Neptune a un gros satellite qui est assez proche et qui a été observé très rapidement puisque Le Verrier découvre Neptune en 1846 et en 1846, juste après, on découvre le satellite parce qu'il est vraiment très facile à voir. Alors avec le télescope, non ça c'est pas le télescope spatial, c'est un télescope de 3 ou 4 mètres de diamètre dans les îles Canaries. Et ben quand on est, ça doit être de l'optique adaptative, vous voyez on arrive à voir Neptune avec Triton. Donc évidemment là on va les séparer beaucoup mieux parce qu'on a de l'optique adaptative. Et comme on est en infrarouge, eh bien on voit les zones, pareil, des nuages. Puisqu'en infrarouge, vous ne voyez pas le méthane. Donc dès qu'il y a un nuage qui vous cache le méthane, le nuage va être très très lumineux par rapport au méthane de l'atmosphère de Neptune. Alors quand on a bien étudié les satellites de Jupiter, un peu ceux de Saturne, on commence à comprendre finalement comment sont faits l'intérieur de Jupiter et de Saturne avec le mouvement des satellites autour à cause de cette dissipation. Et quand on observe les satellites de Neptune et les satellites d'Uranus, on commence à réfléchir et on se rend compte qu'Uranus et Neptune ne sont pas du tout des planètes genre Saturne et Jupiter, mais plutôt des planètes rocheuses avec de l'eau, probablement des océans énormes, ce qui n'est pas le cas sur Jupiter et Saturne. Parce qu'autrement, la dissipation elle ne se ferait pas et on ne voit pas comment les satellites auraient pu évoluer à ce qu'ils sont. Donc vous voyez, aujourd'hui, on a, grâce aux satellites, des notions sur les planètes Uranus et Neptune qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on pensait jusqu'à présent, mais que tout simplement, ce seraient des très gros océans qui auraient sur Uranus et Neptune et un noyau rocheux au centre, ce qu'on ne pensait pas jusqu'à présent. Donc voilà encore, ça c'est Voyager qui a pris une photo de Triton avec Neptune derrière. Et il y a une sonde spatiale qui est en voyage vers Pluton actuellement. Et actuellement, elle passe à côté de Neptune. Donc, elle a pris une photo de Triton et Neptune. C'est pas très bon, mais il faut bien penser que c'est une sonde spatiale qui voyage vers Pluton, qui va mettre des années et des années. Elle voyage tranquillement et elle nous fait des photos de temps en temps. Voilà, donc ça, c'est vu par une sonde spatiale. Alors, je sais bien que Pluton n'est plus une planète, mais je vais quand même vous parler de ses satellites. Alors non, c'est vrai, non seulement c'est pas une planète, mais ces satellites ne sont pas des satellites. Une définition de satellite que je ne vous ai pas donnée, et qui pourtant est fondamentale, c'est qu'il faut que le centre de gravité du système soit à l'intérieur de la planète pour que l'objet soit un satellite. Si le centre de gravité de satellite plus planète n'est pas dans la planète, mais à côté, on appellera ça des objets binaires ou multiples. Donc Pluton, en fait, c'est un système multiple avec plein d'objets. Donc il y a la découverte du satellite, vous voyez, sur une plaque photographique, il y avait juste une petite chose comme ça, petite protubérance par rapport à quelque chose de circulaire. On s'est dit, tiens, il y a peut-être bien un satellite là. C'est comme ça qu'on a découvert Charon. Mais avec le télescope spatial, là, on commence à avoir des choses meilleures. On a Pluton, on a Charon qui tourne autour et on a même découvert d'autres satellites, Hydra, Nix et même un autre, un quatrième qu'on a appelé P4, il n'a pas encore de nom, qui tourne autour de Pluton. Enfin, autour du système binaire Pluton-Charon, puisque le centre de gravité est entre les deux. Alors cette image, elle est jolie, mais quand on essaye de faire des images au VLT ou ailleurs, c'est beaucoup plus difficile. Vous voyez, on a des choses comme ça. On a du mal à découvrir les satellites. Pourquoi c'est aussi moche? Tout simplement parce que Pluton est dans la Voie lactée. Et dans la Voie lactée, il y a beaucoup d'étoiles et ça nous éblouit. On a du mal à découvrir. Donc pour avoir des petites choses comme ça, quand vous avez ça un petit peu partout, c'est pas facile. Donc c'est très très difficile d'observer les satellites de Pluton. Voilà, donc là, vous avez tous les satellites avec les dimensions relatives. Donc, vous voyez, Mars, Phobos et Deimos, ils sont tellement petits que c'est même pas la peine de les... On peut même pas les mettre, là, c'est des petits points. Et puis, vous avez tous les satellites. Donc, vous voyez, les quatre galiléens, c'est vraiment les plus gros. Titan, et puis tous les autres, après, ils sont plus petits, mais c'est quand même ce qu'on appelle des satellites de glace. Donc, tout ça, c'est plein de glace. Ça aussi, mais tout à partir de là, on n'a que de la glace. Donc dans le système solaire, il y a de l'eau partout. Voilà, donc en conclusion, vous avez vu qu'il y a tellement d'eau que finalement la vie, il y a de la place pour la vie. Donc pourquoi pas ? Donc l'étude de ces satellites, on va essayer de comprendre comment tout ça s'est formé. Ça, c'est vraiment l'un des buts. Alors, les missions spatiales, je vous ai parlé d'Europe, je vous ai parlé d'un océan, je vous ai parlé de tout ça. Donc, on a vraiment envie d'aller creuser la banquise. En 2030, il y a une mission spatiale qui est prévue. La mission JUICE, elle a été acceptée, d'ailleurs, il y a deux jours. Donc, c'est vraiment un scoop que je vous donne, qu'on vient d'accepter une mission pour aller là-bas. Il y en avait d'autres, des missions avant, qui ont été refusées. Donc, à force de demander, on en a eu une. Mais ça veut dire qu'en 2030, on aura une sonde qui va juste survoler Europe. Tant qu'on ne connaît pas l'épaisseur de la banquise, on ne peut pas envoyer une chignole avec un forêt. Il faut connaître l'épaisseur de la banquise. Donc, vous voyez, on n'y est pas encore sur Europe. Mais déjà, on va envoyer une sonde comme ça. Par contre, l'observation au sol, elle est totalement, absolument utile parce que, vous voyez, jusqu'à 2030, on n'aura pas grand-chose. Donc, si on veut comprendre, il faut toujours accompagner les missions spatiales par des observations au sol. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais répondre à vos questions.
Voilà, merci. Merci beaucoup. Juste deux choses avant les questions. Un merci à double sens au niveau de certains aspects. Prendre le temps de faire des choses. On voit que pour faire des observations, il faut remonter un siècle, deux siècles, des fois en arrière pour arriver à... Et ça, c'est un peu contraire à ce qu'on fait aujourd'hui dans une société où tout est survolé, tout est extrêmement fait rapidement. Et par rapport à ça, merci de montrer qu'il est bon parfois de prendre le temps et puis observer des phénomènes mutuels. Des fois, il faut attendre 12 ans pour avoir la totalité des choses. Donc par rapport à ça, très bien. Et autre aspect aussi sur une diapositive où tu montrais le réseau amateur d'observation. Et là aussi, ça c'est quelque chose qui est très important en astronomie, qu'on retrouve dans très peu de sciences, en archéologie, en botanique, en étude des plantes, où il y a très peu de relations comme ça entre les chercheurs professionnels et l'aspect amateur, qui renforce cette idée-là de réseau, ce qu'on essaie de développer ici à Mondes-France à travers un réseau régional. Voilà.
Donc, oui, il faut bien que vous compreniez que tout ça, c'est une chaîne très, 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 très longue. Entre le moment où on commence à penser comment on va modéliser le mouvement, le moment où on commence les observations, où on sait qu'on a besoin de plus d'un siècle d'observations, où on sait que c'est en 2030 qu'il y aura une mission et qu'on commence à la préparer, vous comprenez que c'est un travail de très, très longue haleine et qu'il y a une immense chaîne et que chacun, même moi, je ne suis qu'un maillon de la chaîne et les astronomes amateurs qui font des observations pour nous, c'est pareil, c'est aussi des maillons de la chaîne et c'est vraiment une chaîne très, très longue qui nous permet, vous avez vu quand même que je vous donne des informations de l'exploration du système solaire.
Alors, éventuellement, une première question pour lancer le débat. Je reviendrai sur un des premiers tableaux que tu avais montré, ce qu'on considère comme satellite, parce que c'était assez gros, et puis des satellites, presque secondaires. Il y a une révolution récemment sur le statut de Pluton, en tant que planète et pas. Est-ce que, ou ton point de vue, il sera prévu, dans un avenir plus ou moins lointain, d'essayer de refaire ce classement-là au niveau des satellites, c'est-à-dire déjà tu as donné une définition d'un objet qui tourne et le centre de gravité doit être dans la planète. Est-ce qu'on peut imaginer dans l'avenir aussi d'autres conditions qui permettent de dire qu'un satellite reste satellite ou bien finalement ce serait un autre objet, par exemple simplement au niveau du sens de rotation, de révolution autour de la planète ou dans le sens de stabilité, c'est-à-dire que le satellite est satellite pour l'instant mais il ne va pas être stable. Donc, est-ce qu'on doit le considérer comme satellite ou pas ? Est-ce que c'est dans les tuyaux ou pas ?
Pour la plupart des satellites, il n'y a pas de problème. Le centre de gravité est vraiment dans la planète. Donc, c'est des satellites. Ils tournent autour de la planète, ils ne veulent pas s'en aller. C'est plutôt pour la Terre, avec ses pseudo-satellites. C'est la même chose pour Mars. Il y a un doute. Par exemple, Jupiter, il est accompagné par deux nuages d'astéroïdes. des astéroïdes qui sont en avance et en retard sur la même orbite que Jupiter. C'est pas des satellites, évidemment, mais ils sont sur la même orbite que Jupiter. Alors sur la Terre, on s'est demandé s'il y en avait. Et on croit que oui. Mais en fait, ils bougent beaucoup plus parce que les perturbations avec Vénus, avec Mars, avec le Soleil sont plus importantes. Alors ces objets, quand on regarde, finalement, ils tournent un petit peu autour de la Terre ou autour de Mars. Et là, il y a une ambiguïté, c'est vrai. Et là, on ne les appelle pas encore satellites. C'est transitoire, de toute façon. Effectivement, il y a quand même des objets ambigus.
Donc, à qui le tour ? J'ai posé la première question, j'ai fait plus difficile.
Est-ce qu'il y a un risque pour Io que Jupiter happe Io ?
Alors là, on est dans l'échelle de milliards d'années. Donc il est probable que l'écrasement de Io sur Jupiter se fera, le Soleil sera peut-être mort à cette époque. Parce que dans 4 milliards d'années, il n'y a plus de Soleil. Donc il faudra plusieurs milliards d'années, c'est quand même des centimètres par an. La Lune, c'est pareil, c'est 3 centimètres par an, on va la voir encore longtemps. C'est des mouvements très très lents. Mais on arrive à les mesurer, oui. Oui, elle s'éloigne, elle. Mais peut-être pas tout le temps, peut-être qu'un jour elle reviendra. Parce que la Terre ralentit. Et si la Terre ralentit plus que la Lune ne tourne, le mouvement s'inverse.
Si la Terre ralentit, alors on fait plus 24 heures là, on fait...
On fait de plus en plus. Au début de la vie sur Terre, les jours ne faisaient que 15 heures. Et d'ici quelques centaines de millions d'années, ça mettra 26, 27, 28 heures.
Vous nous avez parlé d'une multitude de satellites qui sont glaciaires, donc qui ont de la glace. Y a-t-il certains qui auraient de l'eau liquide, qui serait assez chaud pour avoir de l'eau liquide?
Alors ça, c'est une grande question. Bon, quand un satellite est gros comme Europe, oui, c'est tout à fait possible. Sur des satellites plus petits, comme Encelade, où j'ai parlé de geysers, là, ça devient plus difficile. Et pourtant, il y en a. C'est-à-dire que vous me montrez Encelade, il y a de la glace, vous me dites, est-ce qu'il y a de l'eau liquide? Je vous dis non, c'est pas possible. Et puis, tout d'un coup, on voit un geyser. Alors là, je passe vraiment pour un imbécile. Alors pourquoi? Comment on peut expliquer les geysers? On ne les explique pas encore complètement, mais on pense que c'est des poches d'eau qui seraient apparues par des points chauds parce qu'il y aurait eu un espèce d'effet de marée un peu fort à un moment ou à un autre. Donc ce seraient des poches d'eau, c'est-à-dire que ce n'est pas des océans en dessous, un peu des poches d'eau. Il faut dire que sur la Terre, il y a des poches sous les volcans aussi, mais ce n'est pas le même principe. Mais c'est pas, ça ne viendrait pas d'un océan central, ce serait juste des poches un peu chaudes. Maintenant, justement, on essaye d'expliquer cette chaleur. Mais c'est ponctuel.
Est-ce que certains satellites peuvent avoir eux-mêmes des satellites?
C'est pas facile.
Non. Je dis non, puis un jour on va en trouver un, évidemment. Ah non. Alors là, je vous ai expliqué que ces quatre-là, ils avaient une résonance entre eux. Alors là, s'il y avait un satellite, si on essaye de mettre un satellite, il saute instantanément à cause de cette résonance. On a déjà mis... Apollo s'est satellisé autour de la Lune. Donc ça veut dire qu'on peut mettre un satellite autour de la Lune. Le problème, c'est qu'il y arrive et qu'il se soit stable. Donc il faut d'abord qu'il y ait un dispositif de capture ou un dispositif d'origine, quand la Lune se forme. Mais entre la Terre, la Lune, Mars, Vénus et tout ça, les perturbations seraient trop fortes et un objet comme ça finirait par partir. Il y a vraiment que Jupiter, Saturne qui ont des petits cailloux assez loin. Mais dès qu'on se rapproche... je vais vous dire autre chose. Si vous prenez des cailloux qui sont loin de Jupiter, vous pouvez en avoir un qui est double. Mais là, vous pouvez avoir, comme pour les astéroïdes, des objets doubles. Est-ce que les astéroïdes ont des satellites? La réponse est à la fois oui et non. Oui, puisqu'on a vu des objets qui tournaient autour des astéroïdes, et ce n'est pas vraiment des satellites, parce que le centre de gravité n'est pas du tout dans le gros objet, ou rarement. C'est donc des objets qui volent en escadrille, quoi. Donc ça, il y a un problème de mécanique céleste et de stabilité qui n'est pas simple. Mais sur ces gros satellites, c'est difficile. Ce serait transitoire et on imagine mal un processus de capture. Ça pourrait arriver par hasard, mais ça ne durerait pas longtemps.
Je ne sais pas si on a bien compris par rapport aux histoires de résonance.
contre les gros satellites de Jupiter. C'est-à-dire que vous avez, il me semble que vous avez dit qu'ils ne pouvaient avoir qu'une certaine position.
Oui, relative, oui.
Mais vous ne parlez pas des plans de
Non, on suppose que c'est dans le même plan. C'est donc le mouvement de rotation. Il y en a un qui fait un tour, l'autre en fait deux. Ils ne pourront jamais se désynchroniser. Mais comme ils sont trois, c'est plus compliqué. C'est une relation entre les trois longitudes. Mais on a souvent ce genre de résonance. La plus simple, c'est qu'il y a un satellite qui fait un tour et celui qui est derrière, celui qui est au milieu fait deux tours, pendant que celui du tour, après, en fait qu'un seul. Donc ça, c'est une résonance. Puis il reste comme ça. Voilà. Quand il y en a trois, c'est encore plus compliqué, mais ça marche pour les trois premiers satellites de Jupiter. Mais Callisto, il n'arrive pas à se mettre en résonance. Il est trop loin. Non, pas du tout.
C'est-à-dire qu'au moment où où deux satellites, sont relativement proches, par exemple, ils vont se freiner ou il y avoir un effet gravitationnel entre
Oui, mais c'est, ça, c'est assez faible, ça. Si c'était très fort, le système ne tiendrait pas, ce ne serait pas stable. C'est un effet, c'est ce qu'on appelle de l'excentricité forcée. On a l'impression qu'il ne tourne pas rond parce que, justement, quand il y en a un qui s'approche, il va avoir tendance à aller vers lui. Puis après, il va être attiré par un autre. Et ce phénomène est très périodique. Ça revient toujours pareil, si bien que les satellites, ils restent toujours avec les mêmes positions relatives. Vous ne pouvez jamais les voir tous alignés, par exemple. Impossible. C'est pas possible. Parce que le mouvement est comme ça.
Et est-ce que la Terre se rapproche du Soleil ?
Non. Non. Il y a la Terre, la distance, c'est quelque chose qui varie très peu, mais c'est périodique. Et elle se rapproche. Bon, dans l'année, elle est proche au mois de janvier et loin au mois de juillet. Mais au cours des années, il y a effectivement une petite variation de la Terre qui est un peu du demi-grand axe, c'est-à-dire du rayon de l'orbite qui change un petit peu. Mais c'est des variations périodiques. On n'a pas encore trouvé d'accélération pour la Terre qui irait d'un côté ou de l'autre.
Alors moi, j'ai une question dont tu n'as pas parlé, enfin tu n'as pas parlé de ça, mais c'était sur une diapositive. Quand tu as parlé de la mesure de la vitesse de la lumière par Romer, tu as marqué que le phénomène donc, d'accélération et de retard des éclipses était dû à la vitesse de lumière, et puis en dessous, éventuellement dû à l'excentricité de la planète de Jupiter.
Oui, alors, effectivement, la distance entre Jupiter et la Terre va varier. Mais ça, c'est beaucoup plus lent, puisque Jupiter met 12 ans pour faire un tour. Voilà. Donc, il y a deux phénomènes. Il y a annuellement la Terre qui se rapproche et qui s'éloigne de Jupiter, et Jupiter qui se rapproche et qui s'éloigne du Soleil et de la Terre en 12 ans. Donc, effectivement, il y a aussi ce phénomène-là. Et ça, il faut en tenir compte quand on calcule les éphémérides, c'est vrai.
Oui, mais sur les éphémérides des satellites et sur la découverte de Io, en fait, les observations se font sur un an et à proximité des quadratures. Donc là, au niveau du déplacement de Jupiter, il est quand même très faible.
Il n'y a pas besoin du déplacement de Jupiter. C'est juste le déplacement de la Terre qui va nous faire montrer la vitesse de la lumière.
Voilà, mais comment donc l'excentricité va pouvoir nous fausser en quelque sorte l'observation pour la
en 12 ans. Au bout de 12 ans.
C'est d'accord. Oui. Très bien. J'ai compris.
C'est un phénomène sur 12 ans.
Que l'étude des satellites galiléens, je vais y arriver, avait permis de mesurer la vitesse, enfin de savoir que la vitesse de la lumière existait et a permis de découvrir la façon de calculer les longitudes. Mais tout ça, ça remonte à assez loin. Tout le reste que vous nous avez montré sur le panorama des autres satellites, mis à part une connaissance des satellites en eux-mêmes et sans doute dans le futur de la connaissance sur la formation de l'univers, c'est important. Mais est-ce qu'il y a eu des découvertes, on va dire, un petit peu majeures comme ça récemment ? Parce que là, tout ça remonte à assez longtemps.
Non, seuls les satellites de Jupiter ont servi à des choses autres que la simple étude des satellites. Vitesse de la lumière, ralentissement de la Terre, se servir d'eux comme d'une horloge pour les longitudes, il n'y a qu'eux. Est-ce qu'on aurait pu le faire avec les satellites de Saturne ? Oui, mais pourquoi s'embêter avec des petits satellites difficiles à voir alors que les satellites de Jupiter, vous les voyez avec une simple paire de jumelles ? Donc c'est pour ça, on a découvert les satellites de Jupiter, on s'est servi d'eux. Après, tous les autres satellites qu'on a découverts, on s'est intéressé à eux comme ça, comme on s'est aussi intéressé aux satellites de Jupiter. Donc effectivement, il y a deux phases. Il y a une phase d'astronomie utilitaire, on utilise quelque chose parce que ça marche, et la phase purement exploration, où on veut comprendre comment c'est fait. Bon, les astronomes, ils y vont pas, hein, ils regardent, c'est tout, mais on cherche à comprendre comment ils sont faits, etc. Et tous, alors ça, c'est pour tous. Donc il y a vraiment deux choses en parallèle. Mais c'est parce que les satellites galiléens, ça date de 1610, donc on a vraiment eu le temps de tout faire avec eux.
En ce qui concerne les anneaux de Saturne, de Jupiter, est-ce qu'on pense aussi que ça serait un choc de satellites plus petits ou qui aurait pu innover cette année ?
Non, ce serait un reste de la formation des satellites. Rien à voir avec l'anneau de Saturne. Uranus, Neptune, tout ça, c'est des restes qui n'arrivent pas à ni à retomber sur la planète, ni à être capturés par les satellites. Ça reste là, ça ne bouge plus. Donc il est probable qu'à la fin, l'anneau de Saturne, il y aura un petit résidu comme ça qui n'arrivera pas à être absorbé.
Est-ce qu'on a pu quantifier un petit peu pour Saturne la masse que ça pouvait représenter ?
La masse de l'anneau ? Oh ben maintenant, elle est faible. Le dernier satellite fabriqué, c'est Mimas, et il est petit. Donc le suivant, il sera encore plus petit. Donc il ne reste pas grand-chose. Mais ça fera encore des petits satellites. Hein. Il va continuer à en fabriquer. Mais cette théorie, elle est récente. Hein. Elle a 2-3 ans, hein, la théorie de la fabrication des satellites à partir d'un choc, etc. Et tout le monde n'est pas encore d'accord là-dessus. C'est parce que j'ai travaillé dans cette équipe que je vous en parle, mais c'est la plus probable. Mais ça donne aussi, sur l'intérieur de Saturne, ça remet aussi les pendules à l'heure. On croyait que Saturne était fait comme Jupiter, et en fait, non. Sinon, les satellites ne seraient pas comme ils sont. Les satellites nous disent beaucoup sur l'intérieur de la planète.
Et juste pour compléter, il me semble qu'en équivalent, si on rassemble tous les morceaux du satellite de Saturne, ça ferait un satellite d'à peu près 500 km de diamètre.
Oui, à peine, c'est pas gros, c'est pas très gros, non.
C'est la moitié de la France.
Oui, depuis quelques années, on découvre des planètes extrasolaires en nombre élevé. Donc maintenant, une question qui peut être intéressante. Est-ce qu'on a des idées sur ce qu'on pourrait faire pour essayer de trouver des satellites autour de ces planètes extrasolaires ?
Alors, on n'en est pas encore là. Mais je vais vous dire une chose sur les planètes extrasolaires. Aucun système de planètes extrasolaires ne ressemble à notre système. Pourquoi ? Soit on est unique en notre genre, soit toutes nos observations sont fausses. Par exemple, au début, quand on observait les planètes extrasolaires, elles étaient toutes proches de leur étoile, sur des orbites très elliptiques. Alors proches, ça s'explique. C'est tout simplement parce que c'était la période qu'on observait. Donc si ça avait été une période de 30 ans, il fallait attendre 30 ans. Donc on commence maintenant à avoir des planètes plus éloignées. Par contre, toujours des orbites excentriques. Et ça, la mécanique céleste le dit, une orbite excentrique d'une planète autour du Soleil n'est pas stable, ce n'est pas possible. C'est pour ça que toutes les planètes tournent vraiment sur des cercles autour du Soleil. C'est une raison simple, hein, en mathématiques, c'est l'orbite de plus faible énergie. C'est normal qu'une planète elle soit sur l'orbite de plus faible énergie. Elle ne va pas s'amuser à être... Elle n'a pas de réacteur ou de trucs comme ça. Petit à petit, elle vient comme ça. Alors quand on me dit que toutes les planètes extrasolaires ont des orbites elliptiques, je dis, oh, attention, vous emballez pas, c'est pas stable. Alors petit à petit, il y en a de moins en moins parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de biais observationnels. C'est-à-dire qu'on a mal observé, on a mal interprété les observations. Donc déjà, il faudra qu'on comprenne exactement comment tournent les planètes extrasolaires. Et après, on verra s'il y a une stabilité possible de satellites autour de ces planètes à la lumière de ce qu'on connaît de notre... Alors une fois qu'on aura ça, on pourra peut-être se concentrer sur certaines planètes, parce qu'on en connaît à peu près 500 des planètes extrasolaires. Si on se dit qu'elles ont peut-être des satellites, on va toutes les regarder les unes après les autres. On n'est pas sorti de l'auberge. Donc, il vaut mieux qu'on étudie les systèmes, qu'on voit celles où c'est possible. Et là, on ira voir s'il y a des satellites. Comment, je ne sais pas encore.
Mais c'est intéressant parce que par rapport à... On cherche les exoplanètes pour chercher de la vie. Et par rapport à la Terre, il a été montré depuis 15 ans ou 20 ans que s'il n'y avait pas eu la Lune, l'orbite, enfin, le, pardon, pas l'orbite, le, l'axe de rotation de la Terre aurait fortement varié. Donc là aussi, par rapport à la recherche d'une planète habitable, trouver une planète de masse terrestre à peu près à bonne distance de l'étoile, et en plus de ça, avoir un gros satellite, ce serait un candidat intéressant. Mais
Oui, surtout que la Lune, ce n'est pas évident. Hein. Il y a eu un choc qui a créé tout ça. Autrement, il n'y aurait rien du tout. Non, mais la vie apparaît dans un créneau extrêmement étroit. Il faut bien penser qu'il y a 2 milliards d'années, ce n'était pas possible. Et dans 3 milliards d'années, le Soleil sera trop chaud, parce qu'il chauffe de plus en plus, le Soleil. Donc, il y a vraiment un créneau. La zone habitable, encore, je dirais que Vénus et Mars, on aurait pu être à la place de Vénus ou Mars. Hein. C'est pas encore dramatique. Mais donc, c'est vraiment des créneaux tellement étroits que des zones habitables ou des vies très primitives, ça, on peut en trouver. Mais de la vie évoluée, là, c'est vraiment... plus difficile.
Une dernière question, peut-être ?
Vous parliez de réseau aussi avec des astronomes amateurs. Où est-ce qu'on peut trouver ce réseau-là ? Sur Internet ?
Y a une liste de diffusion qui s'appelle Planoculte. Parce que moi, je vous ai parlé des satellites, mais pour les astéroïdes, on fait aussi beaucoup appel aux astronomes amateurs pour les occultations d'étoiles par les astéroïdes. D'accord. Voilà. Donc c'est un peu un ensemble. Je dirais que cette liste planoculte sur Internet, en tapant ça, on la trouve et on s'abonne et puis on reçoit toutes les possibilités d'observation.
D'accord.
Oui.
Bien.
Alors, avant de terminer, je fais... Voilà, le passage de Vénus va avoir lieu le 6 juin prochain. C'est très très rare, puisque si vous le ratez, après, il faudra attendre 2117. Alors voilà ce que vous allez voir. Le soleil se lève, et au moment du lever du soleil, vous verrez un petit point comme ça. Et quand il arrivera là, le petit point sortira. Ça durera pendant une heure. Donc ce sera le 6 juin au matin, au moment du lever du soleil. Il faudra que vous soyez grimpé quelque part pour voir le soleil le mieux possible. Et puis vous verrez ça. Alors moi, je vais faire une conférence près de Montmorillon, je ne sais plus à quelle date, mais en téléphonant, juin. Vous le saurez. Qui c'est qui le sait ? Qui c'est qui sait la date où... Dans 3 semaines ? C'est le samedi soir. Le dernier samedi du mois de mai, voilà. Mais vous appelez là, le 26 sans doute. Donc là, je ferai une conférence sur tous les passages de Vénus et ce qu'on va faire le 6 juin. Donc, ne ratez pas le passage de Vénus qu'on observe depuis 1639, mais il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2 par siècle.
Voilà. Et pensez à vous protéger les yeux pour l'observation, même s'il y a un peu moins de danger parce que c'est au lever du soleil. Mais
c'est le soleil.
C'est le soleil, ça reste le soleil, voilà. En espérant qu'il fasse beau, surtout à l'horizon, parce qu'il y a souvent des nuages, mais bon, ça, c'est le jeu. Voilà. Bien. Donc, je tiens encore à vous remercier pour cette conférence-là. Et là, donc, je n'ai pas trop d'annonces parce que notre saison nous s'arrête maintenant. Donc, maintenant, les rendez-vous en astronomie pour nous, ça va être l'été avec la nuit des étoiles aux alentours du 8 août. Donc, avec 2 soirées, un vendredi soir, un samedi soir, en collaboration donc avec, dans le chronologique, dans la SAPP et Astronomie Nova et justement le club d'astronomie de Saint-Benoît. Et après, il y a des rendez-vous un peu partout en Poitou-Charentes avec une observation avec la Société des sciences de Château, au moins lapsus du début de la soirée, quand il y a 2 personnes qui sont l'une à côté de l'autre. Forcément, voilà. Et donc, il y aura d'autres rendez-vous en Deux-Sèvres avec la Pétapie, par exemple, et puis du côté de La Rochelle, etc. Voilà, et puis après, la saison repartira au mois d'octobre. Avec certainement pour l'an prochain des conférences autour de l'univers à grande échelle, autour des galaxies, donc par rapport à un aspect historique, comment on a commencé à penser à ces grands systèmes, jusqu'à des observations récentes, et peut-être la place de l'homme justement là-dedans. Des films aussi, avec un nouveau partenariat qui est ouvert avec le TAP Cinéma et le Titriche, où là on proposera certainement donc un film qui vient d'être sorti sur Kepler. donc il sera normalement programmé là pour l'automne, et puis d'autres rendez-vous, donc plus ou moins classiques avec les formations, les séances, etc. Voilà. Donc bonne soirée, et puis à bientôt. Ah.
Le film sur Kepler,
oui.
Sur Kepler l'astronome.
Oui, Kepler l'astronome. Merci.